L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Notre partenaire du jour, c'est donc Eaux et Rivières de Bretagne, qui a invité cette fois une association du Grand Sud, du Sud Finistère bien sûr, la SPF, Association de Sauvegarde du Pays Fouénantais, qui mène depuis longtemps plusieurs combats en lien avec l'environnement côtier en particulier, bien sûr. Ça va de l'accessibilité des sentiers de bord de mer à la protection des talus, en passant par les pollutions en tout genre, et d'ailleurs on développera un peu plus une des pollutions très tendance, malheureusement, depuis plusieurs années, les algues vertes. Donc, Vincent Esnault, porte-parole de la SPF, est avec nous. Et bien sûr, Arnaud Clugerie, le directeur opérationnel d'Eaux et Rivières de Bretagne. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Qui est donc ASPF depuis quand existe-t-elle? Et puis, que fait-elle, Vincent Esnault?
Alors, ASPF, c'est un acronyme qui signifie Association pour la sauvegarde du Pays Fouénantais. Une association qui a été créée en 1972 et qui, l'année prochaine, fêtera ses 50 ans.
Oh bah ça alors, elle a presque mon âge. Bravo. C'est vous qui l'avez créée, non? Peut-être pas.
Alors, j'étais à peine née. Ça vient à la genèse. C'est Madame Kéméré, qui était donc la grand-mère d'Anne Kéméré, d'ailleurs, qui a participé à la création de cette association, qui a très vite démarré par des combats locaux et qui touche à la fois Fouénant, mais l'ensemble du Pays Fouénantais, puisque c'est une association qui agit sur 7 communes.
Ah oui, et c'est intéressant d'ailleurs ça, puisque je crois que dans les années 70, il y avait déjà des combats qui nous paraissent récents, mais en fait qui existaient déjà. Est-ce qu'on peut avoir une idée, un aperçu des sujets de l'association à l'époque?
Alors le grand combat de démarrage, j'ai envie de dire, c'était dans les marais de Mousterlin, où il y avait un projet de marina, qui devait remplacer les marais, milieu naturel. Et donc l'association s'est créée là-dessus au démarrage. Ensuite, elle a enchaîné avec un autre combat qui était la création d'une route départementale qui devait traverser le Pays Fouénantais et qui devait, là encore, impacter à la fois des zones humides, mais aussi des terres agricoles. Et voilà donc les deux premiers combats qui ont fédéré en tout cas tous ces anciens adhérents et futurs adhérents.
Donc c'était l'artificialisation des terres déjà.
Déjà, voilà, on n'a rien inventé.
Et c'était précurseur quand même, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de combats à l'époque contre les projets urbains.
Alors c'est ça qui est assez surprenant, c'est que finalement on se rend compte quand on relit tout ça, c'est que les gens étaient déjà très attachés à leur bocage, à leur histoire et au marais. Et ce phénomène, finalement, a perduré. Aujourd'hui, nous sommes un peu les héritiers de ces combats.
Et aujourd'hui, alors, vos principaux dossiers, enfin, en ce moment, parce que...
Alors, en fait, on ne fait que prendre la suite. Alors, c'est vrai que l'association, elle agit sur de très nombreux dossiers. Mais principalement, le combat marqueur, j'ai envie de dire, et la limite, c'est la loi littorale. La loi littorale qui aujourd'hui a été créée en 1986 et qui permet notamment d'éviter le mitage, le mitage sur l'ensemble des communes littorales.
Mitage urbain, pareil, construction un peu partout, quoi, c'est ça?
Alors c'est vrai que c'est une loi qui est plutôt méconnue, j'ai l'impression, parce qu'on nous parle souvent loi littorale, on pense bord de mer, la bande des 100 mètres. En fait, non, la loi littorale, elle touche l'ensemble d'une commune quand elle est étiquetée loi littorale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du bord de mer jusqu'à la limite, même si c'est à 10 km du bord de mer, la commune est concernée par la loi littorale. Et okay. Donc, on ne peut pas construire au milieu de nulle part. Et c'est ce que voulait en 86 le législateur. C'est-à-dire que si on avait protégé simplement la bande du littoral, eh ben, on aurait construit en rétro-littoral et donc on aurait impacté directement les terres agricoles. Et le but de la loi littorale, c'était aussi, les gens l'oublient, c'était aussi de protéger l'agriculture du littoral, justement.
Mmh. Et d'ailleurs, certains maires s'élèvent régulièrement contre ça, parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas construire comme ils veulent, qu'ils ne peuvent pas faire de lotissement dans leur commune à cause de la loi littorale.
Exactement. Oui, alors souvent, j'ai envie de dire, ce sont souvent des maires de tendance plutôt à droite. Hein, on ne fait pas de politique, mais c'est comme ça. Et puis, leur but, effectivement, c'est de pouvoir ouvrir l'urbanisation. Le problème, c'est que ce qu'ils oublient, ce sont les coûts induits d'une telle urbanisation. Parce que quand on parle urbaniser, ça veut dire des réseaux, réseaux d'eau potable, réseaux d'eau usée, réseaux électriques. Et tout ça, c'est un coût énorme. Et nous, on le voit bien sur nos communes actuellement, puisqu'on arrive après à 40 ans... après cette urbanisation un peu diffuse. Et aujourd'hui, il faut remplacer tous ces réseaux. Ça coûte une fortune. Les communes n'en ont plus les moyens. Et donc, c'est le contribuable qui va payer. Et là, je ne suis pas sûr que le contribuable il soit tout à fait d'accord pour qu'on continue à dépenser des sommes folles dans des projets qui ne se voient pas, surtout.
Oui, puis en fait, la loi littorale n'interdit pas de construire, en l'occurrence, mais elle dit, en gros, il faut construire autour du bourg, quoi. Enfin, là où il y a déjà des maisons, une certaine concentration, quoi.
Exactement. La loi littorale, c'est on construit en extension d'agglomération ou de village. Alors, la notion de village, hein, aujourd'hui, ça a été précisé par la jurisprudence. On considère qu'une quarantaine de maisons regroupées forment un village. Et donc, on peut construire en extension de ces villages, mais pas, évidemment, au milieu des champs, comme ça a été le cas pendant de longues années.
Alors, un autre sujet que j'avais repéré, c'était celui sur les sentiers côtiers, parce que nous aussi, on a eu des affaires de sentiers côtiers en rade de Brest. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, sur cette accessibilité ? Là, c'est presque social comme sujet, on va dire.
Alors ça, c'est un combat qui a fédéré très tôt hein, au sein de l'association, puisque, je rappelle, 1976, hein, c'est une loi sur la servitude de passage le long de littoral. Donc, c'est-à-dire que c'est simplement une notion de passage. Hein. C'est pas dire que la commune devient propriétaire du lieu. Et en surfouinant, donc, il y avait un gros souci, c'est qu'entre, pour ceux qui connaissent, entre Cap Cause et Bengmei, en fait, ce passage ne s'effectuait pas avec des propriétés, de vastes propriétés, et puis des gens un peu célèbres. Et donc, l'association a mené le combat juridique pendant des années pour pouvoir obtenir cette application de servitude. Et puis, en 2014, voyant que ça n'avançait pas, alors, il y a eu une première partie qui a été faite entre Cap Cause et la cale de Bengmei, et il restait à peu près 1,6 km entre la cale de Bengmei et le sémaphore, où là on a vraiment, vraiment une opposition avec des propriétaires assez huppés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de l'ouvrir un peu par la force. Et donc, on a cisaillé quelques clôtures. Mais on était dans notre droit, puisqu'en fait, la loi dit qu'on ne peut pas empêcher le passage.
Donc, c'est voilà, ça.
On a juste fait une application du droit. Et donc, le chantier, aujourd'hui, est ouvert depuis 5-6 ans. Et je pense que tout le monde en est très content de pouvoir vagabonder le long de cette côte.
Bah oui.
Avec un paysage qui est merveilleux.
Mmh. Très, très découpé, très, très agréable. En effet, il y a d'autres sujets, hein, j'ai cité, il y a les talus, les 6 célèbres talus du pays fouennantais qui sont très importants pour l'agriculture, pour la préservation de la biodiversité. Et puis, alors, votre association donc, de sauvegarde du pays fouennantais a à peu près le même âge que Houille-Rivière.
Presque,
ouais, c'est ça. Donc c'est...
On est un tout petit peu plus vieux, puisqu'on est né en 69.
Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, peut-être ? Est-ce que c'est Houille-Rivière qui a lancé un vaste mouvement ? Non ?
Alors, je pense qu'au démarrage, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, c'est vrai que la SPF travaille énormément avec Houille-Rivière, notamment dans le cadre du plan Algues Vertes. Et puis, c'est vrai que dès que l'association a un problème sur les zones humides, par exemple, ou sur les cours d'eau, eh bien, on travaille avec Houille-Rivière. On avait un référent local qui était très impliqué, avec qui on a énormément travaillé, et ce qui a permis de tisser des liens avec cette association qui mène un combat remarquable depuis tant d'années, et qui, comme nous, est souvent stigmatisée.
Oui, puis c'est des questions de génération. C'est vrai qu'on parle d'André Perron, je pense. Moi, je pense à Madeleine Breton, qui a longtemps été présidente de la SPF, qui sont de la même génération. Je crois que c'est la génération qui... En fait, ce n'est pas par hasard, hein, 72, c'est ça. Nous, en 69, en fait, on est vraiment dans les années où la culture bretonne, au sens complètement très large, hein, autant la langue que le patrimoine naturel et autres, eh ben, redevient une vraie préoccupation des Bretons. Et en fait, on a cette génération-là qui se prend en main. Et moi, j'aime bien l'idée de Vincent quand il dit qu'on est les héritiers. Vincent et moi, on est aussi de la même génération et on est très contents de cet héritage et de le porter avec, avec aussi les moyens qu'on est les uns les autres capables de déployer. Ces coopérations qui sont fertiles, hein, l'action locale, enfin, très bien illustrée là, à l'instant par Vincent et cette interaction avec le régional, parfois avec le national qu'on est capable de propulser. Ouais, enfin moi je trouve que c'est encore une fois, on en aura vu dans cette émission des belles rencontres associatives. C'est vrai que la relation entre Houille-Rivière et la SPF, c'est un modèle du genre, quoi.
Alors les zones humides, avant de parler des algues vertes, c'est quoi les problèmes sur les zones humides du pays fouennantais et alentour? Elles sont encore menacées par quoi?
Pour lancer un peu Vincent, parce qu'il aura beaucoup à en dire là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment le lien avec la loi littorale. C'est-à-dire tout à l'heure, je vous entendais évoquer la loi littorale. La loi littorale, elle est là aussi pour pour construire le territoire et les équilibres, les solidarités entre les territoires. Et aujourd'hui, tout le monde veut habiter en bord de mer. Et ça, ça ne sera pas possible. D'un point de vue de l'équité, de l'équilibre territorial, ça ne sera pas possible. Et donc, les zones humides dans les communes littorales sont un zoom sur cette pression urbaine que subissent ces villes littorales. Ouais.
Oui, effectivement, et sur les zones humides, c'est un facteur très important parce qu'on souligne très souvent le rôle de biodiversité. Hein. Ce sont souvent des lieux emblématiques qu'il faut préserver. Et on oublie aussi qu'elles rendent un service énorme, notamment en termes d'inondation, par exemple. Ce sont des zones tampons très importantes.
Il y a des problèmes d'inondation en Pays Fouénantais, submersion marine, entre guillemets.
Régulièrement, ouais. Effectivement, on a des problèmes d'inondation, mais là on est devant une catastrophe qui s'annonce hein, avec le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je crois, personne ne peut le nier. On est sous couvert donc d'un plan de prévention de risques littoraux. Les dunes sont régulièrement attaquées chaque hiver et la mer est en train de plus en plus de pénétrer dans ces marais. Et le problème, c'est que quand vous conjuguez à la fois des eaux en amont qui se déversent donc dans ces marais et que ces marais sont déjà remplis par la mer, et bien la quantité d'eau ne peut plus s'évacuer. Et donc on va se retrouver avec des zones qui étaient avant des zones tampons et aujourd'hui et qui vont devenir immergées régulièrement et ça posera des problèmes en termes d'urbanisation. Je prends l'exemple, par exemple, parce que l'association vient d'obtenir un jugement très important, très récemment, sur la station d'épuration de Fouénant, qui couvre à la fois une partie de Bénodet, Fouénant et la forêt Fouénant. Le juge, ce qu'il a relevé est important. Il nous dit qu'effectivement, l'extension de la station d'épuration a été réalisée en partie dans une zone de submersion marine. Le jour où la dune craque, cette station va se retrouver inexploitable. Ça veut dire que pour l'ensemble de ce territoire, nous n'aurons plus de solution pour traiter les eaux usées. Mm. Comment va-t-on faire c'est un équipement de 13 millions d'euros.
Ouais.
Voilà. Alors, certains vont nous dire l'eau va se retirer. Oui, mais l'eau de mer conjuguée à des machineries, ça ne marche pas.
C'est ça. Et puis en plus, c'est une zone très touristique qui a besoin encore plus l'été de cette épuration. Enfin bon...
Exactement. Alors c'est ça. Le problème qu'on a effectivement sur les communes littorales, qui n'est pas le même sur des villes qui vivent à l'année, c'est que nous on a une énorme fluctuation des volumes à traiter puisque la population n'est pas la même entre l'été et l'hiver où on doit, je pense, on doit être à x2, x3 même à mon avis l'été quoi. Et une station d'épuration, on le sait tous. Quand elle ne fonctionne pas à volume constant, c'est quand même une difficulté supplémentaire pour pouvoir traiter les eaux usées.
Et en termes de fréquentation, ce tourisme assez important quand même. Par exemple, le marais de Mousterlin, qui est devenu une zone assez courue, enfin touristique, je pense, ça va, il souffre pas trop, enfin il encaisse.
Alors, ce qui est assez drôle sur ce marais de Mousterlin, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, au démarrage, il y avait un projet de marina. Donc le but, c'était quand même d'urbaniser tout ce secteur-là. Et aujourd'hui, les mêmes qui mettent en valeur ce marais, et nous, on trouve ça plutôt positif, ce sont les mêmes qui tenaient ce projet-là. Donc nous, c'est pour nous une énorme victoire de se dire qu'aujourd'hui, les gens peuvent se promener dans le marais de Mousterlin et découvrir ce paysage qui a été préservé. Mais c'est comme tout, c'est comme les Glénans, c'est le problème de la surfréquentation. C'est qu'à un moment donné, il peut absorber, mais jusqu'à où, jusqu'à quand? Alors c'est bien d'en faire la promotion, peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser la question effectivement de préserver un peu plus et de voir comment on peut aménager pour limiter aussi, pas l'afflux, parce qu'on ne pourra pas le faire, mais notamment, je pense qu'il y a des travaux qui ont été faits ou qui n'avaient rien à voir avec un milieu naturel, sur des chemins de 4 mètres de large, avec du caillou. À un moment donné, on est dans un milieu naturel, il faut savoir le respecter.
Mm. Oui, Arnaud ?
Ouais, en fait, en reparlant du marais de Mousterlin, je me disais à quel point on passe sous silence ce que l'on doit aux associations de protection de la nature ou aux citoyens qui se sont mobilisés au fil du temps. On les range toujours dans la catégorie des emmerdeurs, de ceux qui nous font perdre des emplois, de ceux qui nous font perdre ceci, cela. Mais non, en fait, ces gens-là, on peut en parler, c'est pas nous, c'est nos aînés. Donc, mais ils nous ont fait gagner des choses incroyables, sans valeur. Enfin, ça n'a même pas de valeur. En écoutant Vincent, je me disais, aujourd'hui, on est encore les râleurs, parce que finalement, si on prend cet exemple du Marais, on l'a sauvé, les associations l'ont sauvé, et maintenant, elles veulent encore le sauver. Elles veulent le sauver, non pas de la destruction de la marina, de l'urbanisation, mais elles veulent le sauver de la surfréquentation. Ça nous ramène, par exemple, aux discussions qui ont pu avoir lieu sur la pointe du Raz. Oui, dans un monde où le tourisme de masse existe, eh bien, sauver les espaces naturels, c'est aussi contraindre les gens à ne pas y aller de temps en temps. Il faut accepter qu'au nom de la nature, on se limite aussi en termes de fréquentation. Non, tous les milieux naturels n'ont pas à être rendus accessibles. C'est une vraie discussion qu'on doit avoir localement. Et puis je me disais en écoutant, finalement, dans un certain nombre de cas, on a gagné la bataille culturelle. Et ça, c'est quand même très important. Et on le doit. Et moi, on le doit aux gens qui osent sortir de chez eux, se mobiliser et dire je ne suis pas d'accord et je pense qu'on devrait réfléchir avant de faire ceci ou cela. Quoi.
Et alors, un autre sujet qui a des connexions avec le tourisme, c'est les algues vertes. Donc, on y vient. Alors, Vincent Esnault, quelle est la problématique algues vertes en bête? C'est plutôt la baie de Concarneau, en l'occurrence, je crois, non? La baie de la forêt
Alors, je crois que chacun trouve une dénomination, c'est-à-dire que la forêt Fouenant, on va appeler ça la baie de la forêt Fouenant.
Ah oui,
la baie à Concarneau, on va l'appeler Concarneau. Effectivement, je pense que historiquement, c'est la baie de la forêt, c'est le bon terme. Alors, le problème qu'on a eu avec le plan algues vertes, c'est qu'effectivement, cette fameuse baie n'était pas identifiée comme prioritaire dans le cadre des plans algues vertes.
Ah oui. Pourtant, il y avait des beaux échouages quand même.
Mais le souci, c'est qu'on avait aussi des politiques qui parlent tourisme avant tout. Et donc, si vous parlez d'algues vertes, ça peut potentiellement, et ça le fait, fuir des touristes. Et donc, du coup, on a essayé de cacher pendant de longues années cette problématique.
Ah oui, au lieu de lutter contre, ils préféraient ne pas en parler. Quoi.
Exactement,
ah oui,
voilà.
Étonnant.
Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est rentré un peu par la force dans ce plan algues verte, et notamment, alors il faut les remercier pour ça, c'est André Olivreau et puis Yves-Marie Lelay, avec qui on avait pris contact et qui nous ont expliqué, parce qu'on parlait que des problématiques dans la baie de Saint-Brieuc et compagnie, et donc du coup on s'est rapproché d'eux.
André, eux, c'est Alto Marée Verte, l'association.
Voilà.
Oui.
Ils sont André, c'est
le pionnier de la lutte contre les algues vertes, ouais, on va dire.
Oui, avec Aiko Rivière, mais c'est vrai que c'est le personnage emblématique parce qu'il est très médiatique et puis il fait très bien les choses. Il faut lui rendre hommage pour ça. Et donc du coup, il est venu faire une conférence et c'est un peu de là où c'est parti. Et quand André a découvert aussi la situation, il nous a dit il faut faire quelque chose, quoi. Et donc on est rentré avec Aiko Rivière, Bretagne Vivante et d'autres associations. On a à l'époque, c'était 2010. Là, chaque année, on faisait un rassemblement marée verte. Et je crois que c'était en 2012 ou 2013, on a fait un rassemblement à Fouenant. Donc c'est un peu la surprise générale. Et grâce à la médiatisation et grâce aux radios et aux télés et aux journaux, on a réussi à médiatiser. Et du coup, on s'est imposé donc dans le plan algues vertes et on a rejoint donc ce fameux plan algues vertes, donc des bibets concernés en Bretagne,
donc,
ce qui n'était pas le cas au départ.
En quelle année c'était?
Alors je pense que ça devait être
2010-2011, la manifestation dont on parle, et après le plan algues vertes, il naît à ce moment-là, hein, en 2010-2011, il est conçu en 2011,
fait.
Et la baie de la forêt doit signer sa charte de territoire, parce qu'après on s'engage territorialement avec la SPF.
Ouais, c'est quoi un plan normalement?
Le plan national, il dit, on est bien dans les suites de ce cheval qui meurt, de ce déplacement du gouvernement en plein été, etc. Et donc décide de déployer un plan de lutte contre les algues vertes et de le faire de façon assez intelligente, territoire par territoire. C'est-à-dire, il y a un grand cadre général, mais chacun dans son territoire, dans les 8 baies, dans chacune des 8 baies, va discuter de mettre en œuvre un cadre avec des mesures innovantes pour faire changer les pratiques qui génèrent des fuites d'azote, donc particulièrement les pratiques agricoles. Hein, à plus de 90%, la responsabilité, elle est agricole. Et donc, pendant plusieurs mois, la SPF, Bretagne Vivante, Eaux et Rivières, est aux côtés de la Chambre d'agriculture, des syndicats, des agricoles, des entreprises de la filière, bien sûr, avec un pilotage de la collectivité, pour construire une charte de territoire à très basse fuite d'azote. Et c'est d'ailleurs un moment où on met des choses sur la table, on négocie vraiment, hein, on fait de la concertation. Alors, poussé par Aoué Rivière, je sais que même chez nous, dans le mouvement associatif, on n'était pas toujours tout à fait d'accord, mais poussé par Aoué Rivière, les associations finissent par signer ce plan de lutte, ce premier plan de lutte, et dire « Ok, sur la baie de la forêt, les ambitions, les orientations nous semblent suffisamment engageantes pour qu'on fasse le pari que ça va marcher ». Collectivement. Alors, je précise, c'est pas dans tous les cas de figure. Hein. Il y a trois baies pour lesquelles Aoué Rivière a donné un avis favorable. C'est La Forêt, Lieu de Grève et Lokirec. Hein, pour toutes les autres, on n'était jamais allé aussi loin dans les engagements. Et finalement, ben, on s'est dit, on fait ce pari, et puis c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses, quoi.
Alors, je ne sais pas si on est à la fin de la foire, mais disons qu'on a 10 ans de recul maintenant. Alors, Vincent Esnault, qu'est-ce que ça a donné, ce plan ? Est-ce que ça a marché ?
Ben, je crois que c'est un échec. Et effectivement, ce que disait Arnaud, c'est qu'au départ, on a voulu envoyer un message positif en signant cette charte. Plan Algue Verte 2010-2015. Et puis, ce qu'on avait conditionné à l'époque, hein, je rappelle Arnaud, c'est on avait dit si à la fin du plan, les objectifs ne sont pas atteints, on demande un passage au réglementaire. Et en fait, c'est là où ça a bloqué, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas atteint les objectifs, eh ben, on n'est pas passé au réglementaire. Et donc, 2015, fin du premier plan Algue Verte, il a fallu attendre 2 ans pour avoir un deuxième plan Algue Verte. Donc, on est reparti en 2017 pour aller jusqu'en 2021. Donc là, c'est la fin de l'année. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a très peu de réunions. On est finalement très peu au courant de ce qui se passe dans ce deuxième plan Algue Verte. Pour avoir les chiffres, pour avoir les données, c'est compliqué. Donc voilà, on voit bien que c'est... on veut bien de vous, médiatiquement, on fait quelque chose, mais dans l'avancée, effectivement, nous, on est très interrogatifs sur ce qui va se passer. Et on nous parle déjà d'un troisième plan Algue Verte.
Et il y a toujours des algues vertes, enfin, concrètement, il y en a toujours.
Il y en a toujours et on est même très inquiet encore pour cette année. Et puis c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que les plans algues vertes, ils faisaient suite à d'autres plans depuis 1998, avec on a eu Bretagne au pur, Prolittoral, les chartes. Donc il y a déjà eu plein de choses qui ont été mises en place. Juste 3 chiffres hein, que je disais avant de venir. En 2010, il donnait pour dépenses publiques, hein, il chiffrait ça à 1 milliard d'euros. Entre l'impact économique et touristique, 1 milliard. Pour le premier plan Algue Verte, on chiffre ça, sous couvert d'Arnaud, je crois que c'est 135 millions, ou 150 millions, plus exactement.
Donc et d'action le plan, contre les algues vertes, quoi.
Voilà, ouais. Et le deuxième plan, on chiffre ça à 135 millions d'euros.
Mmh. Alors là, voilà. Ce que Vincent évoque, c'est l'argent engagé, c'est-à-dire, c'est l'argent que l'on a promis d'engager.
D'accord.
En fait, dans les faits, et c'est assez révélateur de ce qui s'est passé, cet argent n'a pas été engagé, puisqu'il n'a pas été consommé, puisque en fait, la dynamique des territoires n'a pas été à la hauteur des enjeux et des objectifs que les territoires s'étaient donnés. Ce qui fait qu'il y avait de l'argent mis sur la table, enfin promis, mais qui n'a pas été, les enveloppes n'ont pas été consommées dans un certain nombre de cas, notamment par exemple sur les zones humides, et bien finalement, ou le foncier, ou plein d'autres actions qui étaient promises, ça n'a pas été mis en œuvre. Donc du coup, l'argent n'a pas été consommé. Donc au final, ces plans algues vertes, ils n'ont pas été si coûteux que ça, si on les rapporte à ce que coûte, par exemple, la politique agricole commune, à ce que la politique agricole commune injecte dans le territoire. Donc c'est à peu près le même diagnostic ou le même constat que fait Aoué Rivière, hein, que celui que faisait à l'instant Vincent. J'ajouterais, moi, peut-être que sur la baie de la forêt, si le deuxième plan a tardé, c'est parce que, y compris les acteurs locaux, les élus locaux, ont perçu un manque de contrôle de la part de l'État. Donc c'est assez ubuesque, puisqu'on a des élus locaux qui sont venus dire ce que les associations disaient de plusieurs années, c'est-à-dire qu'une politique comme celle-là, une politique publique, si elle se prive du contrôle et du réglementaire, eh bien elle se prive d'un levier ultra important. Donc aujourd'hui, on est en effet presque à la fin de cette deuxième phase du plan de lutte. On parle tous et le document, il a fuité. Donc, tout le monde sait qu'il y a une évaluation de cette politique publique qui est menée par la Cour des comptes. Pour ce qui concerne Aoué Rivière, ça fait un moment qu'on a le sentiment d'avoir été dupé, hein, dans un certain nombre de cas, enfin d'orientation de ce plan. Et donc, on avait décidé qu'à l'occasion des régionales, hein, de cette campagne de régionale,
qui ont lieu le sujet
des marées vertes devait être sur la table. D'accord. Parce que le sujet des marées vertes, c'est le sujet de l'orientation agricole, de l'économie principale de la région Bretagne. Et donc, ça nous semble être un sujet qu'on ne peut pas écarter. Donc, on a lancé une campagne d'opinion pour que ce sujet soit vraiment au cœur, mis à l'agenda politique du moment. Cette campagne, elle s'appuie sur une pétition pour laquelle, qu'on a lancée la semaine dernière, pour laquelle on a déjà la chance d'avoir plus de 7000 signataires, et surtout d'avoir eu dès le début l'appui d'une centaine d'organisations et de personnalités, parmi lesquelles l'ASPF, côté organisation, et dans les personnalités, on l'a déjà un peu évoqué sur nos propres médias et réseaux sociaux, on peut trouver Christian Gourcuff, un ancien entraîneur de foot, on peut trouver Alan Stivell, qu'on ne présente plus, on va trouver Inès Leroux, qui a fait beaucoup ces dernières années pour que l'on parle des marées vertes.
C'est la journaliste enquêtrice.
Voilà, exactement, mais aussi Morgane Lelarge,
Morgane Lelarge, qui a été victime d'intimidation parce qu'elle avait parlé des algues vertes.
Voilà, on va trouver André Olivier, que Bien Vincent sûr, citait, bah oui, et puis Jean-Claude Pierre, choses, qui, voilà, un grand nombre de... Donc en tout cas, cette pétition qui est lancée par Eau et Rivière et qu'on retrouve sur le site d'Eau et Rivière de Bretagne, ses réseaux sociaux, notre ambition au travers de cette campagne, c'est de faire en sorte que l'on en parle. Vincent a dit, souvent on a été dans le déni, souvent pendant des années, on a voulu cacher ça sous le tapis. Nous, on veut qu'on en parle, on veut que chaque candidat nous dise quelles orientations il va porter demain pour que l'on ait une agriculture, une transition agricole qui permette d'avoir une agriculture en Bretagne à faible fuite d'azote et qu'on puisse, avant 2027, avant d'être en infraction vis-à-vis de la réglementation européenne, ça sera 2027, avoir des signes encourageants vis-à-vis au moins de ce phénomène que sont les marées vertes.
Ben voilà, on en a parlé sur Radio Évasion en tout cas. Merci à tous les deux et puis ben, à bientôt. Et Eau et Rivière aura encore une émission en juin.
Ouais. Merci Véronique.
Merci.